avant l'islam, la civilisation arabe était une civilisation de tribus, à peu près à moitié nomades, à moitié sédentaires dans des petites villes. Mais ces tribus avaient comme activité avant tout le commerce, mais aussi l'accompagnement des caravanes et le va-et-vient entre le monde iranien et le monde romain. Et donc, c'est avant tout des gens du lien. Et comment est-ce qu'ils gagnaient leur vie, ces tribus, avant l'islam ? Ils gagnaient leur vie parce que, grâce au commerce, chaque fois qu'ils accompagnaient une caravane, ils touchaient de l'argent, évidemment. Ils ne faisaient pas gratuitement. Et puis, ils gagnaient leur vie parce qu'ils faisaient payer aux oasis pour les protéger contre les pillards des tribus de protection. Et là, c'est une idée qui se répand actuellement aux États-Unis et ailleurs, qu'au fond, la base des impôts tels qu'ils sont perçus dans le monde musulman, eh bien, d'un côté, vous avez les impôts du commerce et des échanges, et puis, d'un autre côté, vous avez les impôts sur la terre, qui correspondent à ce que faisaient ces tribus qui travaillaient à terre dans les oasis et qui payaient, et les impôts sur la terre qui permettent faire marcher l'armée, et puis les douanes qui se sont développées surtout à partir des croisades et qui sont aussi liées au commerce et qui permettent de faire marcher l'État. Donc le régime d'impôts et le rapport, c'est-à-dire que nous sommes en haut, mais nous n'embêtons pas les gens tant qu'ils acceptent de nous obéir, pourvu qu'ils payent leurs impôts, et que s'ils sont juifs, ils se conduisent comme des juifs, s'ils sont chrétiens, ils se conduisent comme des chrétiens, et s'ils sont musulmans, ils se conduisent comme des musulmans. À part ça, on ne les embête pas, et nous, on est le pouvoir est là pour maintenir l'ordre, construire des mosquées et assurer le pèlerinage. Parce que le pèlerinage, c'est quelque chose de central, c'est l'unité de l'islam, et on ne peut pas ne pas assurer le pèlerinage. L'émir du pèlerinage à Bagdad, à l'époque abbasside, c'est un des plus grands personnages de l'État. Il est proche du grand cadi, et enfin, vraiment, c'est un personnage très important. Donc, très peu de fonctions autres que celles-là. C'est-à-dire que tout ce qui est fonction édilitaire, les égouts, les chemins, l'entretien, tout ça ne relève pas de l'État musulman. Il relève ou de la cassette privée du prince, il y a Bayt el-Mal, c'est-à-dire la trésorerie d'État, et puis il y a Khizana al-Khassa, qui est le trésor privé du prince. Alors, trésor privé du prince, il peut faire des routes, il peut faire des citernes, il peut faire ce qu'il veut avec, ou les princesses, très souvent, le dépensent, construire. Mais sans ça, il faut que les gens les plus riches, et ça, c'est une idée qui existait à Byzance, qui existait à Rome, prennent en charge la ville par le système des waqfs. Donc, l'État n'intervient pas au niveau de la gestion du quotidien. Il intervient simplement par ce que, sur lequel a travaillé Pierre et d'autres gens, c'est-à-dire faire que dans le souk, on n'emploie pas des faux poids, on ne vende pas des marchandises avariées, on ne bouge pas la rue. Mais ça ne va pas plus loin que ça. C'est le mortasib qui s'installe. Donc, c'est un État relativement léger de ce côté. Et puis, on doit protéger les frontières et essayer, si possible, de les agrandir. Mais après 750, on n'essaye plus tellement de les agrandir. Et cette civilisation va donner, avant tout, à cause de cet immense espace, avec des itinéraires, que les géographes ont décrit les itinéraires en disant « Si vous voulez acheter ça, vous allez à tel endroit et vous passez par telle ville en sortant par telle porte, etc. » La géographie arabe, c'est une géographie pour commerçants, voyageants. Et donc, Ça a donné des villes. Alors, il y a des villes qui sont d'anciennes villes romaines ou iraniennes, mais il y avait peu de villes en Iran, mais enfin, quelques grandes villes d'oasis, et des villes créées. Mais très rapidement, les anciennes villes et les villes créées prennent le même espace, le même aspect. Pourquoi ? Parce que on ne connaît pas le char, la charrette. On ne connaît que le transport sur le bas des chameaux ou des ânes. Donc on n'a pas besoin d'espace très large. Un chameau bien chargé, il faut 2,50 m pour passer en largeur. Alors que dans les villes romaines, il fallait que deux chars puissent se croiser. Et vous aviez les rainures pour les chars qui étaient à la même distance d'un bout à l'autre de la Méditerranée. Et vous aviez un espace entre les deux fois deux rainures. Et puis vous aviez des trottoirs et tout ça. Tout ça disparaît, mais disparaît avant la conquête arabe. On s'en est aperçu pour la Syrie, parce qu'on n'employait plus le char, faute de bois et faute de chevaux de trait, et on employait le chameau. Et le fait qu'on emploie le chameau pour les transports fait qu'on n'a pas besoin d'entretenir les routes, parce qu'on s'adapte. L'hiver, on passe à un endroit. L'été, on passe à un autre endroit. Si c'est mouillé à tel endroit, on passe ailleurs. Donc ce n'est pas du tout le même genre d'itinéraire que les itinéraires très fixes des Romains. Il n'y a pas les vias, etc., avec les millières et tout. Ça n'intéresse pas. On se débrouille. De toute façon, c'est une civilisation de la débrouillardise plutôt que de la règle. Ça, c'est très net.
Oui, un peu dans le même sens. Moi, c'est une idée que j'ai essayé d'introduire dans certains des chapitres et peut-être aussi dans la conclusion. Ça rejoint tout à fait ce que dit Thierry. On a un État qui a peu d'emprise, au fond, aussi bien sur la société que sur la nature, enfin que sur l'effet naturel. Et moi, il me semble qu'on pourrait dire que cet empire musulman, il est assez écologique, au fond. Il n'a pas marqué. À certains endroits, si, mais enfin, globalement, il n'a pas vraiment beaucoup marqué les territoires sur lesquels il s'est étendu. C'est vrai, même jusqu'à un certain point dans les villes, le pouvoir est très mouvant et il y a peu de continuité. Ça dépend aussi, c'est peut-être un peu, je ne voudrais pas être caricatural, mais il y a peu de continuité du pouvoir politique d'une époque à l'autre, d'une dynastie à l'autre. Finalement, on veille très soigneusement à l'entretien et à la permanence des mosquées. On le fait très peu en ce qui concerne les palais princiers. À la limite, même une dynastie nouvelle ou même quelquefois un souverain nouveau construit un nouveau palais et éventuellement détruit le précédent, ne serait-ce que pour emporter les matériaux. Et il me semble que... Alors bon, par exemple, au Maghreb, l'archéologie française ou les historiens français ont été fascinés par la romanité, les traces de la romanité, et ça rejoignait toute une vision coloniale. Bon, ça, c'est incontestable. Cela dit, si on cherche les traces archéologiques de l'époque musulmane, eh bien, on ne trouve pas grand-chose. Des régions où il y avait une très forte emprise urbaine romaine, avec tout ce qui l'accompagne, tout. Si on recherche, pour essayer de comprendre même le passage d'une époque à l'autre et la transition de l'époque pré-arabe à l'époque arabo-musulmane, on a énormément de peine à saisir ces traces. Ou alors, il faudrait aller dans une recherche d'une extrême finesse, alors que pour trouver un arc de triomphe, il n'y a pas besoin de faire une recherche très fine. On le voit au milieu du paysage. Moi, ça, c'est quelque chose qui me frappe assez. Du point de vue des vestiges matériels, on a un peu de peine à appréhender ces réalités Il me semble que ça tient un peu à cet état qui est, au fond, qui survole un peu la société. Il y a un article, un très bon, enfin moi, un article qui m'a paru très éclairant d'Abdesalam Chedadi, qui est un historien et sociologue marocain, et qui avait écrit il y a déjà pas mal d'années un article dans les Annales qui s'intitulait « Le pouvoir selon Ibn Khaldoun ». Et sa thèse, c'était que le pouvoir n'a pas d'articulation forte avec la société. Et moi, je crois assez qu'il y a, et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai développé, on a deux réalités. On a la réalité du pouvoir, et puis, face, et avec souvent des villes de pouvoir, qui sont des villes qui existent presque par elles-mêmes, et puis, à côté, en face, si on peut dire, et presque en opposition, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait aucun rapport entre les deux, c'est évident, mais une ville, ce que moi j'appellerais volontiers la ville des musulmans. Et ça c'est quelque chose qui se dessine très tôt. L'articulation entre lieu du pouvoir et lieu... Alors, est-ce que c'est vrai peut-être plus de l'Occident, j'en sais rien, mais moi je le vois un peu comme ça, l'articulation entre le pouvoir et la nature d'un côté et les réalités physiques et d'autre part la société civile est une articulation un peu distante en quelque sorte. Hein. Il me semble que ça n'est pas très différent dans un ordre d'idée un peu autre que ce que vient de dire Thierry.
Alors au point de vue de l'écologie, il y a quand même une marque musulmane. C'est que l'agriculture musulmane a beaucoup répandu l'irrigation. Et le monde, les bas-fonds irrigables sont bien plus irrigués pendant la période musulmane que pendant la période romaine. Et d'autre part, on a importé d'Asie, parce qu'il y a beaucoup de commerce avec l'Asie, la culture du riz, qui se répand absolument partout, alors que, et on voit que les gens pauvres mangent avant tout du riz. Bon, le blé existait déjà, continue à se répandre. Et l'agriculture des agrumes, qui ont un grand succès, et l'élevage des mûriers pour la soie. Donc, il y a quand même quelques transformations écologiques de ce côté-là. Mais ce monde manque terriblement de bois. C'est pour ça qu'il n'y a pas de charrettes. Il y a très peu de moulins, parce qu'on n'a pas de bois pour faire les roues. Il y a très peu de bateaux. Très vite, dès le Xe siècle, on voit que ce sont des bateaux italiens qui font le commerce entre l'Égypte musulmane et la Syrie musulmane, parce qu'il n'y a pas assez de bateaux arabes. Donc ce manque de bois va faire que la civilisation va recourir beaucoup à la céramique. Il n'y a pas beaucoup de métal non plus, parce qu'il faut du bois, il faut du charbon de bois. Il faut à peu près 1,5 tonnes de bois pour faire 1 tonne de charbon de bois. Et avec 1 tonne de charbon de bois, on fait quelques dizaines de kilos d'acier ou de fonte. Donc ils achètent le métal sous forme de métal non préparé, soit dans les Balkans, soit en Inde, et ensuite, bon, les épées de Damas ou les épées de Tolède, c'est un métal extérieur qui est travaillé. La sidérurgie n'existe pas, mais la métallurgie est très développée. Donc, ce que je voulais parler, dont je voulais parler maintenant, c'est le pouvoir sur un autre aspect. Il y a une crise de pouvoir très, très tôt. Et en fin de compte, le pouvoir... bon, il faut savoir que Mohammed est mort assez subitement, sans avoir rien préparé pour sa succession, et que dans le Coran, c'est ça qui fait sourire quand on passe aux islamistes, dans le Coran, moi, j'ai fait chercher par des étudiants islamistes tout ce qui concerne la politique, la vie politique, il n'y a rien dans le Coran. Et même dans le hadith, ça ne va pas très loin. Donc, de ce côté-là, ce n'est pas du tout comme l'Empire byzantin qui fonctionne avec une définition très nette du bacilleux, c'est tout ça. Et En fin de compte, on a défini un personnage qu'on appelle nous le calife, qui est en fait un type triple titre. Il s'appelle Khalifa, Khalifa Mohammed ou Rasulullah, c'est-à-dire le successeur de Mohammed, prophète de Dieu, ou Khalifat Allah, le représentant, le vicaire de Dieu sur terre. Deux conceptions. Une conception temporelle, je continue le temps de Mohammed, une conception horizontale, il y a Dieu qui continue à me commander. Donc, le Khalifa, c'est avant tout celui qui est responsable du premier héritage, l'héritage le plus important de Mohammed, c'est-à-dire la loi islamique. Avant tout, il est responsable de la loi islamique et il n'a pas le droit de l'agrandir ou de la... Il faut la garder telle qu'elle. Simplement, il peut demander à des spécialistes, les oulamas, de lui dire, bon, ben, comment est-ce que vous appliquez la loi islamique dans ce... Mais contrairement aux empereurs byzantins qui font des novelles, qui font des nouvelles lois tout le temps, et tellement qu'on a des annexes de lois absolument gigantesques, lui, il n'a pas le droit de faire de nouvelles lois. Donc ça, c'est son premier pouvoir. Son second pouvoir, c'est Amir el-Mouminin, prince des croyants. C'est au fond le pouvoir, le sultan, le pouvoir fort. C'est lui qui commande le peuple musulman et qui commande les armées. C'est le commandeur général des armées qui peut nommer les généraux, les qaïd, et les gouverneurs, les walis. Donc ça, c'est le pouvoir temporel. Et son troisième titre, c'est imam. En général, il porte les trois titres. Imam, c'est-à-dire celui qui est en avant, celui qui prie devant à la mosquée. Et lui, il prie devant son peuple. Et en quelque sorte, il est face à Dieu. Il a son peuple derrière lui. Et il présente le peuple des musulmans à Dieu. Donc ça, c'est le triple pouvoir. Et très vite, ils vont perdre deux des trois pouvoirs. Les oulamas, à partir de la mort d'El-Ma'moun, Ma'moun avait essayé de reprendre en main le pouvoir de la loi, à partir de la mort d'El-Ma'moun, les oulamas, avec Ibn Hanbal, reprennent le pouvoir et ils soumettent un petit peu le calife à leur censure. Quant au pouvoir militaire, d'abord, on a fait appel aux tribus arabes et aux arabes. On a nommé des gouverneurs et des caïds arabes. Mais on s'est aperçu d'un problème crucial, crucial dans le sens d'une croix. C'est que d'un côté, il y a un axe vertical, la hiérarchie, le soldat, son général, le caïd et le calife, avec tous les gens intermédiaires. Et puis il y a un axe horizontal qui croise sur la personne. C'est la solidarité familiale. Et chaque caïd a eu à lutter ou à gérer cette contradiction cruciale entre la mainmise familiale sur lui, source de ressources, et le pouvoir. Et comme ça ne marchait pas, les Abbassides, ça c'était le système omeyyade. Comme ça ne marchait pas, les Abbassides ont essayé de transformer les Iraniens en soldats, les Abna, les fils iraniens. Ça n'a pas marché non plus pour d'autres raisons. Et alors, à partir de Mortassim, c'est-à-dire Mortassim a régné de. Je vais marquer cette date, j'ai oublié. 833-842. À partir de Mortassim, 833-842, on a fait appel aux Turcs, aux esclaves turcs, parce que les esclaves turcs, ils étaient dans la hiérarchie, mais ils n'avaient pas de famille, ils venaient tout seuls. Donc, ils n'avaient pas de solidarité et ils étaient très bons cavaliers, très bon combattant, très bon administrateur. Et donc, pendant longtemps, on s'est appuyé sur les Turcs et sur le fait qu'ils étaient esclaves, donc ils n'avaient pas de famille, et ça a sauvé un petit peu l'Empire, la qualité des Turcs. Ça, je parle évidemment que pour l'Orient. En Occident, c'était différent. Mais ce problème de la double solidarité est un problème important. Et très vite, on voit qu'il y a une différence fondamentale entre le Moyen-Âge occidental chrétien et le Moyen-Âge musulman. C'est que la loyauté au Seigneur, qui est, avec le grand prêtre, un prêtre serment entre ses mains, etc., à son seigneur, qu'on devient son vassal, son suzerain, etc., le suzerain et le vassal, tout ça, ça n'existe pas. C'est pas obéir. Ben, on obéit au type qui vous a nommé en place tant qu'il est plus fort que vous. Mais vraiment, dans la mentalité arabe médiévale, musulmane médiévale, celui qui a la force doit l'employer, et celui qui ne peut pas retenir son pouvoir parce qu'il n'a pas la force, il doit s'en aller. Il n'y a pas... c'est pas parce que votre père a eu le pouvoir que vous avez été chassé, que vous avez le droit de revenir. Non, si vous n'êtes pas assez fort, vous n'avez pas le droit de revenir. Il n'y a pas cette histoire de loyauté. Et ça se voit très, très vite à partir du 9e, 10e siècle. Bon, est-ce que tu as quelque chose à dire pour l'Espagne là-dessus ?
Oui, enfin... Bon, tu as parlé tout à l'heure de plusieurs choses, dont un peu l'agriculture. Mais enfin, c'est parce que je l'introduis, parce que c'est un peu un remords de ma part. Thierry avait donné comme titre à un chapitre l'agriculture, rente foncière et rente fiscale. Et j'ai eu un peu de... Bon, donc c'est moi qui ai essayé de traiter ces problèmes. L'agriculture, j'en avais déjà parlé, j'avais déjà fait les chapitres sur l'agriculture dans le volume de Garcin, enfin les trois volumes de Garcin. Et il m'a semblé que très souvent, je serais amené à me répéter. Bon, la révolution verte, par exemple, dont on parle toujours pour les premiers siècles de l'islam, est-ce qu'elle se produit au 8e, au 9e, au 10e et encore au 11e siècle? Au fond, on n'en sait rien, hein, même pour des régions qui sont assez bien connues. Quelquefois, elle se produit très tôt. On a l'exemple des fouilles qui ont été faites par Sophie Berthier, sous la direction de Sophie Berthier, sur le Rabour, donc exactement dans cette zone limitrophe, dans cette zone de frontière entre l'ancien domaine sassanide et l'ancien domaine byzantin, qui était une zone stérilisée à peu près par la confrontation des deux empires antérieurs à l'islam, et où, dès le 8e siècle, apparemment, on a très forte intensification des cultures, avec introduction, là, le travail de Sophie Berthier est, je crois, très intéressant, avec intensification et introduction et importance d'une agriculture irriguée et d'une agriculture qui correspond tout à fait à cette révolution verte qui a souvent été mise en évidence pour les premiers temps du monde musulman. Alors, bon, ça, j'en avais déjà parlé, j'en ai peu parlé, et finalement, il n'y a rien, il n'y a pas une vision spécifique correspondant à l'agriculture dans ce livre. En revanche, le volet rente foncière, rente fiscale, c'est celui que j'ai développé pour parler des impôts et pour parler aussi d'un phénomène qui me paraît très très important, qu'on connaît, c'est pas un scoop, mais à mon avis, peut-être aussi parce que je travaille sur l'Andalous, qui a eu une très grande importance, c'est l'expansion, c'est l'établissement, colonisation, entre guillemets, par les Arabes, de provinces très éloignées, comme l'Andalous. Et je crois que l'Andalous a été très fortement arabisé, quel que soit le nombre des Arabes qui s'y sont installés, qu'on a de la peine à appréhender exactement. Mais ces Arabes, leur destin, le destin de ces populations arabes ou de ces éléments aristocratiques tout de même, enfin qui correspondaient à une espèce de sommet de la société, qui accaparait cette rente fiscale et cette rente foncière, elle a été très différente suivant les régions. Pour l'Andalous, par exemple, les Arabes ont quand même continué à correspondre à une classe dominante de la société jusqu'au Xe siècle. Pour l'Orient, Thierry vient de l'expliquer, au fond, ces Arabes disparaissent un peu du panorama très vite, sauf dans des régions périphériques de l'Arabie, où il y a des petites dynasties arabes. En Espagne musulmane, je crois que les choses sont assez différentes, mais malgré tout, l'évolution est, me semble-t-il, un peu la même, c'est-à-dire que ces anciennes élites arabes, elles vont se civiliser, enfin au sens étymologique du terme, elles vont perdre leur fonction militaire, même en Al-Andalus où elles la gardent plus longtemps qu'ailleurs, pour être remplacées par des nouvelles élites. Alors en Espagne, par exemple, c'est ce qu'on appelle les Saqalibas, ces officiers, ces militaires slaves, et puis aussi des Berbères, qui sont importés à l'époque califale pour constituer l'essentiel de l'armée, alors que les Arabes disparaissent du panorama militaire, ils ne correspondent plus à une force militaire et ils deviennent une aristocratie civile. Bon, il n'y a pas qu'eux, ils entraînent un mouvement où ils accompagnent et ils dominent quand même, je crois, un certain temps un mouvement où ces élites, ces anciennes élites militaires, elles se convertissent en éléments civils et les fonctions qu'ils vont occuper, c'est plutôt des fonctions juridico-religieuses. Qui font que, là aussi, moi je reviens un peu vers ce que je connais, mais c'est à la fois différent, et ça n'est pas très différent quand même de ce qui se passe en Orient, avec peut-être un certain décalage, on retrouve un peu cette opposition d'éléments qui sont souvent d'origine servile, c'est le cas des Saqalibas, qui sont des esclaves à l'origine, c'est le même phénomène que les Mamelouks, et qui vont jouer un rôle très important, mais à l'époque suivante, puisque ces chefs slaves, Saqalibas, ou les chefs berbères, qui sont des chefs des contingents berbères de l'armée califienne, c'est eux qui vont s'emparer du pouvoir à l'époque suivante, c'est-à-dire au XIe siècle. Donc, il me semble que le fait de à Byzance, il y a peut-être des éléments, encore que non, il me semble pas, le fait de promouvoir de tendre à la promotion, y compris à des fonctions de direction de la communauté musulmane, des éléments d'origine servile, c'est quelque chose qui est assez spécifique au monde musulman. Et ça s'articule, ça s'accompagne d'une distanciation, de la distanciation dont je parlais tout à l'heure, de la société civile par rapport au cercle du pouvoir.